D'abord, une petite explication que vous avez eue. Le chapitre 9 du cours d'achèvement est par le chapitre 8. Mais le sujet étant le même, d'ailleurs, j'ai l'impression que vous n'entendez pas. Si vous pouvez vous servir aussi du livre de la Genèse, de donner en tout cas ce qui nous parle, et nous avons besoin du chapitre 15 du livre de la Genèse. En fait, toute la semaine, nous avons étudié le grand texte maharal sur un verset du chapitre 15, que je vais vous citer et vous pouvez expliquer très rapidement. Ensuite, je donnerai dans une première analyse la structure de l'enseignement du maharal. Les cultes d'Aneus, c'est-à-dire les théories de l'exil d'après le Maharal.
Allez-y, okay. je m'excuse.
Donc, tout l'enseignement du Maharal est basé sur la question suivante. Nous avons dans le chapitre 15 de la Genèse un récit d'une vision d'Abraham. Et c'est donc par définition dès le début de l'histoire d'Israël, avant même qu'elle ne commence. Et dans cette vision, un des versets tout à l'heure, indique à Abraham que sa descendance connaîtra dans son histoire l'éventualité de l'exil. Je dis bien l'éventualité de l'exil, bien que nous sachions en posteriori que ce n'était pas seulement une éventualité, mais une réalité, parce qu'a priori, il ne peut pas y avoir de fatalité, a priori, par définition. Alors, ce verset se trouve au chapitre 15, au verset 13. Je l'ai mis en hébreu. Vayomer et Abraham, et Dieu dit à Abraham, nous aurons l'occasion de voir dans cette étude qu'à une première période de sa vie, Abraham se nomme encore Abraham, ensuite il se nommera Abraham. Dans un verset, il se nomme encore Abraham. Vayomer et Abraham, et Dieu dit à Abraham, Yadoar Teda, savoir, tu sauras, que ta postérité sera étrangère. Dans un pays qui n'est pas le leur. Ce n'est que plus tard qu'il se dévoilera qu'il s'agit de l'Égypte. Mais la forme a priori du verset indique la condition de l'exil dans une première définition qui est d'ailleurs redoublée, comme vous avez vu, que ta postérité sera étrangère. Première indication, dans un pays qui n'est pas le leur. Deuxième indication. Et nous verrons que ce sont déjà deux niveaux de l'exil, il y en a encore deux autres qui vont être indiqués. Marabadoum, ils seront asservis, troisième niveau, et à Inou Portam, ils seront persécutés, opprimés, quatrième niveau, à Barbe Ochana pendant 400 ans. Verset 14. Les garmes et gauche, Achaïa Aodou, et même la nation qui les aura opprimés, dans la Nochi, je les jugerai, Rachaïchénité ou Virouchadon, et ensuite, ils sortiront avec de grands valeurs. Voilà le verset qui est un double verset, où l'éventualité de l'exil dans toute sa péripétie est indiquée à Abraham avant même que l'histoire d'Israël ne commence. Or, ce verset 13 et 14 du chapitre 15 répond au verset 8 du même chapitre, lorsque Dieu rappelle à Abraham les trois promesses qui concernent son identité. La promesse d'une descendance, la promesse de la terre et la promesse de la Torah. Et nous allons revenir sur ce faisceau de promesses qui est l'essentiel de la prophétie à Abraham et donc du début de la prophétie hébraïque. Mais nous retrouvons ces trois dimensions, le sujet humain, le peuple, la terre, le monde et la Torah, les valeurs qui relient l'homme et le monde. Trois promesses sont données à Abraham, et dans ce contexte, du chapitre 15, Dieu rappelle ses promesses à Abraham. Et Abraham semble être pris dans le doute. Il demande un signe. Alors je vous lis ce verset 8. Vayoma, et il dit, le sujet est Abraham, Adonai Elohim, Seigneur Dieu, Bama Edar, qui Rachena, en quoi saurais-je que leur mériterai? Alors à ce verset 8 a répondu au verset 13, puisqu'Abraham a dit Bamé, c'est Bamé ou Bama? Bama, oui. En quoi saurais-je savoir, Eda? Dieu répond, Yadoa, Eda, savoir, tu sauras, que puisqu'il en est ainsi, ta descendance sera exilée. Nous avons très brièvement, en première approche, très brièvement, laissé le même sujet. Et la question qui va se poser au Maharaj, c'est comment comprendre que une telle sanction vienne punir la descendance d'Abraham d'une faute, c'est la première fois que j'entends le terme d'une faute, entre guillemets, que cette descendance n'aurait pas faite, que Abraham aurait fait. Et nous aurions là une explication irrecevable pour la tradition juive, parce qu'elle serait du type mais originaire. C'est-à-dire qu'à l'origine de notre histoire, avant même qu'elle ne commence l'histoire d'Israël comme peuple, il y aurait eu une faute, entre guillemets, et voilà que la descendance d'Abraham serait punie de cette faute, une faute qu'elle n'aurait pas. Et donc, avec le texte du Maharal, je voudrais d'abord la structure du GG dans le livre. Et nous aurons à retrouver tout cela dans toute la semaine. Un premier grand, c'est de définir l'exil comme étant la sanction d'une faute. Et pour pouvoir comprendre la cohérence, la logique de ce type d'explication, il faut d'abord définir de quelle faute pouvait-il s'agir. Or, étant donné que ce contexte met en relation un doute, entre guillemets, d'Abraham, et d'autre part, une sanction qui répond à ce doute, la première hypothèse consiste à dire que c'est l'exil comme sanction de la faute viendrait punir une faute faite à l'origine par Abraham lui-même. Et je voudrais annoncer très rapidement que cette manière d'aborder le problème va être critiquée par le Maharal, par l'argument principal auquel j'ai fait allusion, c'est que ça nous renverrait à une explication de type d'origine. Donc, si vous voulez, la première introduction. C'est pourquoi le Maharal nous proposera un deuxième type d'explication que nous aurons à suivre pas à pas. Le deuxième type d'explication, j'en fais quelques mots immédiatement, c'est que, en fait, il ne s'agit pas d'une sanction, d'une punition qui viendrait punir un acte. Cet acte dévoile une certaine tendance d'identité. Lorsque cette tendance d'identité se dévoile dans la descendance d'Abraham, elle risque de se dévoiler au niveau d'actes qui seraient les fautes. Alors, la sanction peut être définie comme punition. Mais au niveau d'Abraham, la conduite que nous avons analysée en Abraham lui-même n'était pas faute, elle était tout entière vertu. Et donc là, nous avons un sujet extrêmement vaste à explorer. Et nous aborderons par la suite un troisième point qui consiste à envisager l'événement de l'exil non plus comme la sanction d'une faute, non plus comme ce que serait la punition d'une faute, mais au contraire comme une fonction, comme une, à la limite, comme une mission. Et j'ai tenu à vous annoncer alors l'enfant du programme que nous avons touché avec le Maharal, c'est bien évident que chacun des points de ce vécu doit d'abord se parler pour lui-même, ensuite nous essaierons de les relire. Bien, alors avant d'aborder le premier point, c'est-à-dire comment comprendre cette conduite d'Abraham qui mène comme sanction l'annonce de l'éventualité de l'exil. Le Maharal va nous citer deux explications qui tiennent avant toute chose à évacuer. Une de ces explications, et peut-être nous aurons besoin de toute la matinée pour cette première explication, il la prend dans un commentaire prestigieux de la Bible, qui est le commentaire de Nachmanide, et que je vais vous citer très rapidement. Ensuite, nous allons le lire en texte. Selon Nachmanide, la de la descendance d'Abraham vient punir ce que serait, et je mets tout cela au conditionnel pour commencer, une faute dans le comportement d'Abraham lorsque, à un de ses voyages en Égypte, il fait dire de sa femme qu'elle est sa sœur. Et là, il a mis sa femme en danger. Encore une fois, je mets tout cela au conditionnel en citant la manière dont le Maharal cite Nachmani. Et vous retrouverez ces références, bien sûr, dans les commentaires de la journée. Nachmani met en évidence ces correspondances formelles entre ces deux événements. Le fait que Abraham descend en Égypte et d'une certaine manière persécuté par le pharaon à cause de sa femme. Et qu'ensuite, le pharaon, reconnaissant son erreur, va combler Abraham de cadeaux. Et de la même manière, lorsque la descendance d'Abraham sortira d'Égypte, comme c'était d'ailleurs annoncé dans le verset 15 du chapitre 15, que je vous ai dit, 14 du chapitre 15, que je vous ai cité tout à l'heure, le peuple d'Israël va sortir avec de grandes richesses. La raison pour laquelle le Maharal va critiquer l'enseignement de Nachmani, nous est indiqué par le Maharal lui-même, ce n'est pas l'explication que le Talmud a donnée de notre problème. Comment comprendre l'exil dans la mesure où on le comprendrait comme punition d'une faute et de laquelle. Donc, c'est apparemment une argumentation beaucoup plus formelle que dans le contenu. Je traiterai donc en différents points d'expliquer l'explication de Maïmonide en la rattachant au système d'explication du Maharal lui-même et ensuite d'essayer d'expliquer pourquoi le Maharal n'a pas fait comme je vais faire, c'est-à-dire essayer d'intégrer Nachmani. J'ai dit Maïmonide et Nachmani, mais je me suis trompé d'intégrer Nachmani dans un propre système d'explication. Ensuite, nous abordons deuxième thèse que le Maharal va aussi évacuer de la même manière, et c'est l'explication d'Abravanel. Abravanel va chercher la cause de l'exil dans cette même dialectique faute, sanction de la faute, dans un tout autre épisode, qui est celui de la vente de Joseph par ses frères. Là encore, Abravanel, le Maharal ne citera pas le nom d'Abravanel, mais nous savons que c'est difficile dans le contenu de la thèse. Abravanel met en évidence des correspondances formelles entre les événements de la vente de Joseph par ses frères et d'autre part l'épisode de l'exil d'Égypte. Et là encore, le Maharal, dans le même système de critique, va repousser cette thèse avec les mêmes arguments. Premièrement, ce n'est pas l'explication que le Talmud a donnée. Et d'autre part, cette explication, ainsi comprise, renverrait à une théorie de type péché origine. Donc, très très brièvement, l'introduction générale de nos études, et je vous invite tout de suite à prendre votre texte dès le début. Et nous allons procéder comme d'habitude, je lirai simultanément en hébreu et en français, et à partir de maintenant, s'il y a quelque chose qui vous arrête, vous pouvez me mettre vos yeux, de quelle sorte d'élucider ce que je dis. Donc, nous commençons à la page. Et nous, le 52 en français, je vais rétichir, c'est-à-dire chapitre 9. Après que nous ayons déjà expliqué quel était le résultat du chapitre précédent. Mais il y en a marre à Véagadol, le sujet de cette grande vision, c'est l'objet du récit du chapitre 15 de la Genèse, où Abraham, ayant demandé un signe qui confirmerait l'accomplissement des promesses que Dieu lui a faites, Abraham est l'objet d'une vision que vous lirez vous-même dans le chapitre 15 de la Genèse. Cette vision est appelée en hébreu le Mahavé, la vision de Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux, littéralement. Je vous renvoie à ce thème lui-même, vous le verrez dans la tête de la Et je vais chariponner, tu dois comprendre, le Maharal, va d'avoir rasé dans ce sujet, Shkhmarakatou, que le verset a dit, c'est notre verset 8 du chapitre 15, Yadoa, c'est là, savoir, tu sauras, qui est Zaracha, que ta postérité sera étrangère. Vaharazou vers une autre âme, et on les opprimera, et on les asservira. Alma trouvait Haas Agadol Patrie. Pourquoi toute cette grande colère? L'expression est très directe. Pourquoi cette grande colère? Le raisonnement est le suivant. Ce qui est annoncé dans notre verset 8, savoir tu seras un défendant, sera étranger dans un pays qui n'est pas le leur, etc. Finalement, c'est réalisé dans l'histoire comme étant une persécution terrible. L'histoire des Hébreux en Égypte est telle que l'histoire des Hébreux en Égypte a préfiguré l'histoire d'Israël à travers jusqu'à nous. Et c'est une histoire incommensurablement incompréhensible. Nous devons la rattacher dans le principe de conséquence et de son apôtre à un petit acte qui aurait eu lieu dans la Torah. Fût-ce même une espèce de doute. Et on pourrait comprendre ce doute d'Abraham lorsqu'il entend des promesses qui vont faire de lui le point de départ de ce peuple si à part de tous les peuples, qui est le peuple de l'histoire d'Israël, et en bonne part, en effet, il peut y avoir là l'application d'une relation de modestie. Dieu s'adresse à un homme, l'interpelle, et lui dit la descendance qui portera le sang de l'humanité entière. Il est très compréhensible qu'il y ait une perplexité à tout le moins. Et voilà qu'une histoire terrible viendrait punir un moment de doute qui pourrait être expliqué en vertu. Je ne sais pas si j'ai réussi à expliquer l'expression du Maharal, qui en hébreu est très fort. Pourquoi cette grande colère? Qu'est-ce qu'elle exprime comme réaction et par rapport à quoi? D'autant plus qu'à la limite, et d'autres commentateurs du Maharal lui-même le montrent, c'est vraiment le problème du péché originel. Toute l'histoire de l'humanité elle-même pourrait être comprise comme une histoire terrible, et on pourrait avoir tendance à expliquer cette histoire terrible de l'humanité comme la sanction de quelque chose qui se serait passé à l'origine, et quoi. Chaque fois qu'on rencontre ce thème du péché originel, il faut bien en tout cas distinguer qu'il n'a jamais eu dans la tradition juive le pathos, comment dire, le pathétique, le dramatique plus le tragique qu'il a dans la formulation chrétienne, mais quand même. Le thème en lui-même passe l'entendement. Il essaie de montrer, en caricaturant un peu à la limite, comment admettre que l'histoire de l'humanité ait été faite ce qu'elle est parce que notre ancêtre a mangé une pomme. Vous comprenez le caractère complètement incompréhensible d'un tel thème. Il est important de voir que le Maharal ici se mesure. Avec les grandes qualités d'une telle analogue concernant la définition de l'humanité. Et c'est pourquoi je tenais tout au début à un peu approfondir ces préliminaires. Le Maharal, de façon catégorique, rejetait ce type d'explication. L'exil expliqué comme punition d'une faute, il va nous dire que c'est absurde. C'est absurde parce que ça nous renvoie encore une fois à l'absurde du thème du péché originel. Et donc, c'est d'une toute autre manière qu'il faut comprendre ce qui se passe. Je vous l'annonce un peu à l'avance, parce que nous travaillons de façon un peu difficile, pratiquement, pour que le déroulement du raisonnement soit plus aisé. Je vous dis, il ne s'agit pas du tout de la punition d'un acte. Abraham aurait fait quelque chose, et en sanction à ce quelque chose, sa descendance va être punie pendant 400 ans. Et vous voyez que derrière, c'est le même filigrane pour l'histoire de l'humanité en général. Il s'agit que le comportement d'Abraham dévoile une tendance dans son identité. Or, au niveau d'Abraham, le patriarche, cette tendance était une vertu. Lorsque cette tendance se dévoile dans l'histoire de sa descendance, elle peut se dévoiler comme fausse, et à ce moment-là, la sanction pourrait être appelée punition. Mais ce n'est pas du tout la punition de ce qu'avait fait Abraham, c'est la punition de ce que ferait sa descendance lorsqu'elle refait ce qu'a fait Abraham, mais au lieu que ce soit en vertu, si c'est en main. J'entends bien que c'est encore mystérieux ce que je vous dis là, parce que c'est assez formel. Et ce n'est pas une histoire de suspense. On en a jusqu'à la semaine pour pouvoir démonter la chouka sur le balcon. Et là, mais nous verrons que c'est aussi le même système d'éducation pour ce qu'a cité Armani, pour ce que va aussi faire par un tel que cependant le marin refuse. Parce que nous verrons que c'est encore beaucoup plus délicat à manier, ces explications qu'il refuse. Donc je reviens à l'étonnement du marin. Je vois que dès la face du marin, le micro marche un peu mieux. Que Dieu dise ainsi à Abraham, puisqu'il en est ainsi, savoir qu'ils ont l'acteur et son orceleil. Oui, mais or, oui. Aramban, c'est son nom, Nachmani, Nathan, Taram, Nathaba, a donné une explication à ça. Et il dit, Nachmani, il fait chez Aya Abraham, et il est à Benisraïm Yadon. Parce que Abraham avait mis Sarah en grande épreuve, en grand danger. Chez Amar, en disant, Achoti, et elle est ma sœur. Vous vous rappelez de cet épisode, où, que je reviendrai d'ailleurs, et où Abraham, arrivant en Égypte, dit de sa femme qu'elle est sa sœur. Il y aurait là, d'après les fictions de Nahmani, citées par le Maharal, une faute. Nous verrons tout à l'heure qu'il n'en est rien sur elle. Mais prenons, sinon d'abord le raisonnement formel. Il aurait là une faute d'avoir mis, retenez l'expression, Sarah bénisse à Yon Gadol en grande épreuve. Dans le sens de mise à l'épreuve. Pas dans le sens de. Pas dans le sens de souffrance, mais dans le sens de Yon de test. Et le pharaon l'a prise à cause de ça. Mais je suis pour cela, dit Nahmani, et bien, quand je vais au pharaon de l'Israël, Dieu fait venir sa descendance, la descendance d'Abraham, en Égypte, Kamke aussi. Moshe et bien, le pharaon n'est gagné que de. Et de même que Dieu a fait venir sur le pharaon de grandes plaies. Car il y a quelque chose à l'Israël, de même, Dieu fait venir contre l'Égypte les garimes d'olive de grandes plaies. Comment se gère Abraham d'Abraham, et de même que le pharaon avait renvoyé Abraham de Matanot Rabot avec de grands cadeaux. Car tout Israël lui rouille cadeau, de même Israël sont sortis avec de grandes richesses, et nous aimons livrer à Rambam. Voici les paroles de Nahmani Dilma. Maintenant, je crois que nous avons un peu avancé dans le sujet. Je vais donc simplement éclaircir la thèse de Nahmani et expliquer la critique contre le Maharal immédiat. Nahmani dit ceci. Dans la mesure où nous devons considérer l'exil comme la punition du défaut, où se trouvait cette faute? Eh bien, Nahmani ne prend pas le verset 8 du chapitre 15 que nous avons lu. Lorsque Abraham demande ainsi de l'accomplissement des promesses. Or, ça aurait dû être la tendance normale du commentaire de faire comme le Midrash. Et le rapport entre ces deux mots, Bamaïda et Yadoar Seda, je dis là rapidement pour les Hébraïs. Non. Parmi cherche ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Et il y a là une correspondance formelle entre ces deux épisodes. Je ne sais plus comment procéder. Donc je crois que la meilleure des choses, c'est de lire d'abord la critique du Maharal. Ce sera plus aisé ensuite de trouver l'armée. Alors, le Kvar au choix là, déjà dit le Maharal, on a objecté à l'armée, couche-toi, des objections telles, al chénérica, birucho, nicole, macole, des objections qui ont arraché son explication complètement. C'est-à-dire qu'ils l'ont complètement dératif. Chéaré, puisque Ahar Shenigzer la Galut Allah, s'il en était ainsi, ça voudrait dire que, après que l'exil ait puni Abraham d'avoir dit de Sarah qu'elle était sa sœur, et chez Allah Ligra et Amar Achouti, Hazar Abraham, Abraham aurait recommencé la même chose. Puisque si vous en souvenez, ça va jouer un rôle important tout à l'heure. Cet épisode, où le patriarche dit à quelle est sa sœur, se produit deux fois dans l'histoire d'Abraham, et d'ailleurs aussi une troisième fois dans l'histoire d'Isaac. Il y aurait là une vraisemblance de Mahomet. Ça veut dire qu'Abraham a fait une imprudence. Il a dit de sa femme qu'elle est sa sœur, et il en est résulté de catastrophe. Alors il aurait entendu Dieu lui dire, tu seras puni dans ta semence à cause de cela, il aurait recommencé encore une autre fois. Et non seulement cela, Isaac aurait encore recommencé une autre fois. Vous comprenez le. Dès qu'on a compris la force, cet argument du Maharal, ce sur quoi il faut s'étonner, c'est sur Nachmani. Est-ce que Nachmani n'est pas capable de raisonner ainsi? Est-ce que Nachmani ne voit pas ce qu'un enfant du Talmud Torah aurait vu, puisque nous sommes en train de le voir aujourd'hui? Est-ce que Nachmani ne comprend pas cela? Ça veut dire que les choses ne sont pas si simples. Il faut qu'on se demande, qu'est-ce qu'a voulu vraiment enseigner Nachmani en enseignant cette antenne? Le Maharal, on le devine déjà. Le Maharal nous dit, ton explication à ton Nachmani est trop délicate, on risque de se tromper. On risque de croire que c'est un mécanisme de péché originel. Okay? Mais il faut comprendre ce qui se passe. Tout ceci en ayant en tête que l'objet de l'étude, c'est d'éclairer quelque chose d'alcline. Et comme mon Nachmani relie l'étude au fait d'avoir dit de sa femme que c'est sa sœur ou le patriarche, comment le Maharal refuse cela et lui le relie au tout d'Abraham sur la confession des promesses. Je pense qu'on a un peu progressé. Dans l'introduction. Véod, Trach et Amarka. Vous prenez la phrase suivante. Et non seulement Abraham a recommencé, dit le Maharal, mais Isaac aussi a dit la même chose à Rosi, elle est ma sœur. La Maharazé, pourquoi Isaac l'a fait? Arrach, Abraham et Enach, après qu'Abraham ait été puni de cela. Comment Isaac ferait la même faute, sachant que c'était une faute? Quoi, la manière dont le Maharal a réfuté Nachmani. Je vais prendre quelques minutes pour expliquer la thèse de Nachmani, la rattacher au système général d'explication du Maharal. Et ce qui servira de rappeler très brièvement pourquoi le Maharal n'a pas fait comme cela, mais de n'apprécier, comme nous disons en hébreu de l'étude, de sauver la thèse de Nachmani. En fait, le point de départ, c'est, je pense, la notion de irresponsabilité ou imprudence. Je vais raconter cette histoire au niveau des patriarches. Ensuite, la reprendre au niveau de la descendance des patriarches, parce que cette descendance se conduit de la même manière. Et nous essaierons de voir qu'alors qu'au niveau des patriarches, il s'agit évidemment d'une option de vertu. Pour l'histoire de Joseph et de ses frères. Alors je vais la rappeler un certain nombre d'éléments que certains d'entre vous ont déjà étudié dans notre étudiant. Nous essaierons de les récapituler d'après notre sujet. Lorsque reprenez le texte dans le récit biblique de l'histoire d'Abraham, on ne peut pas nous faire se frapper par le fait qu'Abraham reprend dès le début de sa geste, de sa marche historique, les grands problèmes des vertus de l'homme au point où le premier homme les avait laissés. Plus exactement, au point où le récit de la Bible les laisse au niveau des premières générations de l'humanité. En particulier, vous verrez dès le début de l'histoire d'Abraham dans la Genèse qu'Abraham sort de la civilisation de Chaldée, accompagné par son neveu qui est Lot. Ils descendent ensemble en Égypte. Et ce n'est qu'après cet épisode où, en Égypte, Abraham avait dit de Sarah, qu'elle est sa sœur, que Lot et Abraham seront séparés. J'insiste un peu sur ce point pour pouvoir vous donner l'axe de l'analyse. C'est-à-dire, Lot et Abraham sont au début de leur histoire des personnages très semblables. Ils sont tous les deux capables de cette fraternité qui avait été perdu dès les premières générations. Lorsque, c'est un des récits les plus importants du commencement de l'histoire humaine selon la Bible, lorsque la première fois un homme a tué son frère, lorsque Caïn a tué Abel, le mot de frère. Comme Abraham. De la même matrice d'identité, tous les deux capables d'être des frères, commencent une histoire très parallèle. Ils vont se séparer à cause d'une différence d'ordre moral. Le critère de leur séparation, c'est la moralité. Alors que, anthropologiquement, tant Abraham que Lot sont capables d'être frères. Si j'ose dire, Lot se conduit comme un faux frère, alors qu'Abraham est capable de l'être de fraternité dans la morale. Vous verrez cela vous-même dans les récits de l'histoire, du début de l'histoire d'Abraham dans la Genèse. C'est précisément à propos de cet épisode, juste après, où Abraham dit de sa femme qu'elle est sa sœur, que la Torah nous raconte la séparation entre Lot et Abraham. Je vais vous citer, pour éclairer ce problème, un enseignement d'un des principes des grands maîtres du judaïsme contemporain du siècle dernier, qui est le Rav Etzraïm, qui pose une question apparemment sur un tout autre sujet, mais qui va directement se rattacher à notre problème. Le Rav Etzraïm a posé la question suivante. Comment ça fait-il que, alors que pour la Torah, le sacrifice était absolument interdit en dehors du temple, le premier grand sacrifice de l'histoire d'Israël, à la sortie d'Égypte, le sacrifice de l'agneau pascal, se fera en Égypte même. Le principe étant que le sacrifice, qui est, si vous voulez, le rite de relation à Dieu, et ne doit se faire que dans l'endroit de la sainteté, le temple, c'est le Beit Hamikdash, la maison de la sainteté. Et les lois de la Torah sont très strictes à ce sujet. Dès que le temple sera construit, interdit d'offrir un sacrifice en dehors du temple. Voilà que le sacrifice fondateur d'Israël comme nation à la fin de l'exil d'Égypte se fait en Égypte même, c'est-à-dire du point de vue des catégories publiques, à l'endroit de l'opposé le plus absolu de la sainteté, à l'endroit de la plus grande impureté. La question que pose le Rav Etzraïm est une question qui renvoie à un mystère. On appelle cela en hébreu « shechitat chutz », faire un sacrifice en dehors de la maison de sainteté. Pour expliquer cela, le Rav Etzraïm rappelle un principe très important, très familier, si vous voulez, aux études traditionnelles juives de la Bible, mais pour lequel il y a un peu de temps peut-être pour élucider cela en France. Il nous dit, il y a deux sortes de sainteté. Il y a la sainteté dévoilée et la sainteté cachée. Le temple, c'est l'endroit de la sainteté dévoilée. Partout ailleurs, c'est l'endroit de la sainteté cachée. Je vais prendre une autre comparaison. Le bien et le mal. Le bien, c'est le bien dévoilé comme bien. Le mal existe. Mais le mal ne peut exister que parce qu'il y a caché en lui un bien secret qui le fait exister. Une des stratégies de la lutte contre le mal, c'est précisément de dévoiler l'impureté du mal, littéralement de le déshabiller pour délivrer l'étincelle de sainteté, de bien qui était cachée en lui. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. C'est-à-dire, dans la perspective du monothéisme absolu, du monothéisme intégral, rien ne peut exister s'il n'y a pas quoi que ce soit qui le fasse exister. L'idée est un peu délicate, mais j'espère qu'elle sera suffisamment comprise. Or, le mal existe. C'est donc que, profondément caché dans le mal, il y a une étincelle de vertu prisonnière, mais qui fait que l'exister se passe. Vous comprenez déjà la fonction de l'exil, descendre là où il y a du bien caché dans le mal pour le délivrer. C'est une fonction très périlleuse. Mais oui, on s'y approche doucement. Et donc, nous dit le Rav Etzraïm, de la même manière qu'il y a la sainteté dévoilée et la sainteté cachée. La sainteté dévoilée, nous allons l'appeler la sainteté chez elle, dans sa maison. Retenez bien les expressions. La sainteté cachée, c'est la sainteté qu'il y a dehors, à l'extérieur. Et plus le dehors est loin du dedans, plus l'extérieur est extérieur du dedans, et plus ce qui fait exister la sainteté cachée est important. C'est clair jusqu'à. Alors, vous comprenez déjà ce que le Rav Etzraïm veut expliquer, il nous dit. Donc, il faut comprendre qu'effectivement, le sacrifice de Pessah, le sacrifice de Pâques, de la sortie d'Égypte est un cas particulier du sacrifice de la sainteté cachée, celle qui est sortie d'Égypte avec Israël. Il nous dit c'est la même chose pour l'amour. Il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour du mari pour sa femme, c'est dans la belle et pas dehors. Et il y a l'amour du frère pour la sœur, c'est dehors et pas dans la maison. Or, ajoute le Rabbi Tzraïm, le premier homme avait porté le problème de l'amour jusqu'au niveau mari et femme. Jusque-là, il n'y a pas ici d'allusion à un processus évolutionniste, mais jusque-là, chez les êtres vivants, il y a mâle et femelle. Zahar unkela. Le niveau mâle-femelle, au niveau de la sexualité pure et simple, impure et simple, chose dite, reste chez l'homme. Mais chez l'homme apparaît le niveau époux-épouse, mari-femme, face-à-face. Ce, dans les termes hébraïques, pas seulement Zahar ou Keva, mais aussi Ish et Isha. Et c'est là que le problème était resté. Ensuite, il y a dégradation des vertus de la moralité dans l'identité humaine. C'est le récit. À partir de la chute, Abraham reprend l'histoire de l'homme, là où le premier homme l'avait laissé, et doit le faire dans la terre qui est plus haut. Le premier message qu'Abraham doit porter dans l'humanité, et c'est la première découverte qu'il fait, c'est que sa femme, c'est aussi sa sœur. Voilà donc le contenu du thème auquel se réfère Nachman. Bien évident. Si ce n'est pas suffisamment clair, je pourrais expliquer plus. Il est bien évident qu'il ne peut pas s'agir à ce niveau-là d'une faute. Abraham sait ce qu'il fait. Il sait qu'il s'expose. Il sait que c'est dangereux. Je vais essayer de vous raconter ça comme il m'est arrivé de le faire à une autre étude. Peut-être ici, un peu sous forme, la forme suivante. Imaginez Abraham et Sarah arrivant au poste frontière en Égypte, l'Égypte du Pharaon. Étaient déjà tous les deux très âgés. Abraham avait 90 ans et Sarah 80. Ils étaient très âgés tous les deux. Et alors arrivés au poste frontière de l'Égypte, et rappelez-vous, ce sont les premiers épisodes de l'histoire d'Abraham que la Torah nous raconte. On lui demande, avez-vous quelque chose à déclarer ? Alors il répond, j'ai une déclaration très importante à faire, ma femme, c'est ma sœur. Enfin, c'est pas plus compliqué. Dans le voyage de l'exil, il y avait un message à délivrer. Comment l'Égypte a réagi ? Ah, ta femme, c'est ta sœur. Donc c'est pas ta femme. Alors on peut te la prendre. Le Rav Tzraïm continue, voyez donc, c'est effectivement dangereux. Mais que se passe-t-il dans cette entreprise de témoignage ? Quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que l'on pourrait croire en lisant ce récit comme si Abraham, pour se protéger, ayant peur que puisque sa femme est belle, on va la lui prendre, pour être sûr qu'on la lui prenne, va dire que c'est sa sœur, ce qui serait complètement absurde. Est-ce que c'est clair ?
Mais les Égyptiens faisaient leur sœur.
Justement, en Égypte, c'était tout le contraire. De leur sœur, ils faisaient leur femme. Et le patriarche hébreu vient dire, ce qu'on appelle un tikkun, pour restaurer la vertu de ce problème, c'est l'inverse. Il faut arriver que de sa femme, on fasse sa sœur. Et tant que les mots ne sont pas clairs, interrogez-moi. Parce que je comprends très bien que si on ne comprend pas, on ne comprend pas.
Est-ce que ça veut dire qu'elle est concomitamment sa femme et sa sœur, ou est-ce que ça veut dire qu'elle n'est en quelque sorte plus sa femme est devenue sa sœur?
Voilà ce que je voudrais dire. J'ai pas écouté, j'ai entendu le début de la question, mais vous me direz si j'ai bien entendu. Il y a deux sortes d'amour. Il y a entre l'homme et la femme. Alors on va être gêné par les mots, mais essayez de comprendre. Entre Ish et Isha, il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour des époux, qui est un amour qui tient compte de la sexualité, qui la transfigure, qui la sublime, je sais pas comment dire, qui la sanctifie. C'est l'amour de l'homme et la femme en tant que mari et femme. D'autre part, il y a une toute autre sorte d'amour, dit le Rabbi Tzraïm. C'est l'amour entre le frère et la sœur. Et ce sont deux amours différents. Je reviens sur les critères. L'amour entre le mari et sa femme est permis dans la maison, est interdit dehors, c'est immoral. L'amour entre le frère et la sœur est permis dehors, interdit dans la maison, c'est immoral. Si on reprend le processus du mariage, il y a un premier stade
on a dépassé, sanctifié la sexualité, on est arrivé à l'amour entre l'époux et l'épouse. Si on s'arrête là, l'amour n'est pas encore intégral. Il faut arriver à un deuxième stade où on aime aussi sa femme comme un frère aime sa sœur. Voilà ce que ça veut dire.
Donc,
il y a deux niveaux.
Dans Shirachirim, Mikel Rafi Ahli.
Bien fait. Justement, il y a un verset du Shirachirim que le Rafi Tsraïm cite. Je ne voulais pas le citer, pour ne pas compliquer l'analyse, mais je vais le citer tout à l'heure quand même. Nous avons un peu poussé, si vous voulez, cette comparaison. Mais avant de le faire, je vais simplement mettre en évidence ceci. Vous voyez, il y a là une conduite au niveau des patriarches qui est une conduite de vertu. Abraham a fait une découverte. Tant que cette découverte n'est pas entendue, il n'aura de cesse de le répéter et de s'exposer à tous les risques jusqu'à ce qu'elle soit entendue. Et effectivement, à cette époque, ça n'a pas été entendu. Mais lisez attentivement le plaidoyer du pharaon, et ensuite le plaidoyer d'Abimelech, la deuxième fois que ça arrive, et ensuite le plaidoyer d'Abimelech au temps de Yitzhak, où ils diront, mais on n'a rien compris, pourquoi tu nous punis? On n'a pas compris, il fallait nous expliquer, on ne leur a pas assez expliqué, d'une certaine manière. En fin de compte, ce message a été entendu théoriquement. Il reste à le réaliser, il reste à le faire. Mais voilà de quoi il s'agit. C'est une vertu qui émerge au commencement de l'histoire d'Israël, et au niveau du patriarche, c'est une vertu au Corinth. Il me reste à expliquer comment c'est dangereux, c'est s'exposer, et que la même conduite peut être imprudente. Et alors là, il y a cas de déceler où y a-t-il faute, de telle sorte de comprendre l'exil, comme disait Nahmani, comme la sanction de cette faute éventuelle. Et encore une fois, au niveau des pères, c'était une vertu. C'est au niveau de la descendance que ça peut être une faute de s'exposer ainsi. Je ne quitterai pas le sujet, donc ça ne sera pas suffisamment éclairci. Alors je pousse la comparaison. Le Rav Tsraïm ajoute une troisième parallèle, une troisième dimension. Et il nous dit, dans la sagesse aussi, il y a l'intérieur et l'extérieur. Il y a une sagesse dans la maison. C'est la sagesse qui est appelée secrète. Elle n'appartient qu'au mari de sa femme et à la femme de son mari. Je ne sais pas comment dire. Dans la relation entre l'homme et la Torah, il y a un aspect de la Torah qui est secret, qui est intérieur, qui n'est spécifique que d'Israël. Qu'un autre aspect de la Torah qui appartient à l'universel. Et de ce deuxième aspect de la Torah, Israël dit qu'elle est sa sœur. Et alors, lorsque Israël voyage avec sa Torah, on lui demande, est-ce que c'est ta femme ou ta sœur? Alors il répond, c'est ma sœur. Alors on lui dit, puisque c'est ta sœur, on va te tuer et la prendre. Vous voyez toute l'histoire de l'exil là-dedans, okay? Il répond, mais c'est quand même ma femme. Elle dit, ah bon, c'est ta femme. Pourquoi t'as dit que c'est ta sœur? Parce que c'est quand même ma sœur. Vous voyez que c'est un problème extrêmement dangereux. C'est l'histoire d'Israël. Et là, je pourrais d'ailleurs vous citer dans le verset que le Rabbi Tsraïm cite. Mais je vais me borner, simplement vous donner des indications. Déjà dans les proverbes, la sagesse est appelée aussi la sœur. Et la sagesse est appelée aussi celle qui parle à l'extérieur. Ce sont des expressions bibliques très familières dans la lecture de la Bible. De la même manière donc qu'il y a une sainteté intérieure, une sainteté à l'extérieur, un amour à l'intérieur, un amour à l'extérieur. Il y a une sagesse dans la maison et une sagesse à l'extérieur. La sagesse à l'extérieur est appelée sœur, la sagesse à l'intérieur est appelée femme. Alors,